Chapitre 17. Grace est assise à la table de la cuisine devant une pile de lettres. Il est presque 2 heures du matin, et au fond de la théière, le thé qu'elle a préparé 1 heure plus tôt est froid et amer. Bientôt ce sera marée haute, et elle pourra aller se coucher, mais pour le moment, elle poursuit son tri, examinant chaque missive. Un tremblement de la vitre lui fait relever la tête. Malgré le noir complet du dehors, elle devine que la tempête approche. Elle note qu'elle doit penser à fermer les volets côté sud, la façade la plus exposée au vent, et sortir vérifier que l'atelier est bien fermé. Après s'être enveloppée les épaules d'une couverture, elle retourne au courrier qu'elle a sous les yeux. Une lettre de Vanessa à Frances Levy, une amie artiste. Elle fait partie d'un paquet de lettres que la fille de Frances, Léa, a transmis à Grace l'an dernier après le décès de sa mère, victime du Covid. À présent, Grace les analyse dans l'espoir de reconstituer leur chronologie. Ces échanges, qui s'étalent sur 25 années, sont presque exclusivement consacrés à l'œuvre artistique de chacune des deux femmes, Frances en Carnoailles et Vanessa dans l'Oxfordshire, puis ici, à Iris. Vanessa, la peinture est un objet. Depuis que je me suis cassé le poignet, j'ai pris conscience de la matérialité de la peinture, de son aspect concret. J'adore cette sensation d'avancer vers une dimension plus sculpturale de mes toiles. Néanmoins, je me demande parfois si tous ces changements, ces métamorphoses constantes, ne risquent pas de donner une impression d'incohérence dans mon œuvre. Frances, n'est-ce pas justement ce que nous recherchons? Le développement d'un langage esthétique propre, de la même manière qu'un écrivain cultive sa voix? Ton passage du figuratif à l'abstrait, puis de l'abstrait au figuratif fait partie de ton langage. Et il est bien normal que celui-ci évolue, c'est le principe. D'ailleurs, nous n'avons pas d'autre choix que d'évoluer si nous ne voulons pas être évincés de la scène artistique. Vanessa, je me fiche de la scène artistique. Les lits défaits et les requins coupés en deux, très peu pour moi. Pourtant, je suis mouvante, tel le sable. Je pense que ce qu'on crée devrait être influencé par l'endroit où on le crée, comment on le crée et avec quelle matière. Chaque jour, je me réveille folle de joie d'être ici, séparée du monde par la mer, et de parler le langage de la nature et des marées, plutôt que celui de la politique et de la société humaine. Quand elle écrit, Vanessa prend ce que Grace appelle « sa voix d'artiste », un ton affecté qu'elle empruntait pour impressionner ceux qu'elle considérait comme ses supérieurs sur l'échelle sociale, et qu'elle n'utilisait jamais avec Grace. Pour cette dernière, la teneur de ses échanges avec Frances oscille entre le banal et le déconcertant. Quelle prétention, bon sang! On parle de gens qui faisaient du dessin, pas de la recherche contre le cancer non plus. Cependant, elle se doute que Becker trouvera tout cela palpitant. Alors, elle pose les lettres à teneur artistique sur la pile qu'elle destine à Fairburn. Les autres, celles dans lesquelles empiète la vraie vie, les liaisons, les amitiés et les inimitiés, elle les range à part, dans la pile personnelle. Frances. Dora est venue me voir. Marc et elle se sont encore séparés. Elle est bouleversée et m'a supplié d'intervenir en sa faveur, de te demander de mettre fin à cette histoire avec Marc. Je lui ai répondu que je n'avais aucune influence sur toi. Mais je vais tout de même te dire une chose. Si Marc n'a pas d'importance à tes yeux, d'un point de vue sentimental, j'entends, je sais bien qu'il est important d'un point de vue amical, mets fin à cette relation. Ne le contacte plus. Ne le laisse pas revenir vers toi. Elle est dévastée. C'était affreux à voir. Quel drame. Le bébé n'a que 8 mois et j'ai l'impression que Dora ne s'en sort pas. Je suis inquiète. Vanessa. Frances, tu sais que ce qui se passe entre Marc et moi n'est pas vraiment de mon fait. J'ai déjà rompu à plusieurs reprises. Je viens encore de le faire. Mais il me rappelle sans cesse. Je suis désolée pour Dora. Je suis désolée qu'elle souffre. Mais je crois que le vrai problème, c'est Marc. Je compatis à ses difficultés avec le bébé. Je n'ose imaginer ce qu'elle ressent. Je suis tellement soulagée de n'avoir pas réussi à tomber enceinte quand Julianne me le demandait. J'ai toujours considéré la famille comme l'antithèse de la liberté. Quand Léa lui a envoyé cette correspondance, Grace a d'abord été surprise qu'elle ne souhaite pas conserver les lettres de sa propre mère, et elle les a mises de côté, en se disant que Léa avait peut-être pris cette décision sur un coup de tête. On est rarement lucide quand on vient de perdre un proche, et qu'elle risquait de les lui réclamer un jour. Mais non. À présent, elle commence à comprendre pourquoi. Léa n'apparaît presque nulle part dans ses écrits. Les rares fois où elle est mentionnée relèvent de l'anecdotique, dans le meilleur des cas. Frances, tu te trompes au sujet de la famille. Il est tout à fait possible d'être une mère et d'être libre. Et de créer. Regarde Epworth. Même si pour être honnête, je me demande parfois pourquoi on a continué après le premier. Un bébé, ça suffit amplement. Même l'amour maternel a des limites. Léa et son troisième enfant. Grace s'apprête à poser ce courrier dans la pile personnelle quand elle remarque son prénom en bas de la feuille. Frances, est-ce que Grace passe encore tout son temps chez toi? Tu devrais faire attention, V. Tu sais que tu as tendance à attirer les parasites. Je me doute qu'elle te trouve fascinante. Sa vie doit être si morne à côté de la tienne. Des journées passées à distribuer des antibiotiques et à faire la leçon aux fumeurs et aux alcooliques, quelle angoisse! Elle me ferait presque de la peine, au fond. Grace froisse le papier dans son poing. Puis, avec un soupir d'agacement, elle le déplie et le lisse de sa paume sur la table. C'est idiot de se laisser atteindre. Et pourtant, distribuer des antibiotiques. Risible. Oui, elle traitait les rhumes et les petits maux, mais il y a aussi eu ce pêcheur qui, grâce à la rapidité d'intervention et l'habileté dont elle a fait preuve, a pu garder l'usage de sa main droite. Et cette fillette de 3 ans qui venait pour un vaccin ROR et qui est sortie de son cabinet avec un courrier adressé à un néphrologue. Sans la vigilance de Grace, le cancer rare dont elle souffrait n'aurait probablement pas été repéré avant des mois, peut-être trop tard. Cette petite patiente s'est mariée l'année dernière et attend un enfant. Voilà ce que Grace laisserait au monde après son départ. Cette femme. Et Frances, qu'a-t-elle laissé, elle? Quelques jolies poteries? Grace passe à la lettre suivante. Et au fil de sa lecture, son cœur enfle et ses yeux s'emplissent de larmes de gratitude. Vanessa, je ne pense pas qu'il faille avoir de la peine pour G. Elle a une vraie vie, un vrai métier. Elle a des racines ici, un lien avec cette communauté que je n'aurai jamais et que je lui envie d'ailleurs. Les gens du coin comptent sur elle, moi y compris. Grace n'est pas un parasite, c'est une bonne amie. Je savoure son désintérêt total pour le monde de l'art. Elle estime que dans ce milieu, tout le monde pète plus haut que son cul. Et à de rares exceptions près, elle a raison. On s'entend très bien toutes les deux. Et si, quand j'ai besoin d'être seule, je lui dis. Ça ne pose jamais problème. Rayonnante de fierté, Grace place la missive au sommet de la pile qu'elle veut faire lire à Becker. Ainsi, il verra combien Vanessa l'aimait. Il saura que Grace fait partie intégrante de l'histoire de l'artiste. Après un instant d'hésitation, elle récupère dans le côté privé le courrier dans lequel Frances parle de ses enfants et l'ajoute à ce qu'elle transmettra à Becker. Il lui reste un autre paquet à trier, les lettres de Carlyle, mais elle ne se sent pas encore prête à les affronter. Au lieu de cela, elle se penche sur les clichés. Il s'agit surtout de paysages de l'île pris par Vanessa. Celle-ci n'aimait pas peindre à partir de photos, mais elle s'en servait parfois comme point de repère, ou pour se souvenir d'une lumière particulière à un moment particulier lors d'une journée particulière. Becker pourra bien en faire ce qu'il voudra. Il en reste quelques-unes qui représentent des gens. Une partie date de l'époque où Vanessa vivait dans l'Oxfordshire, surtout des photos de groupe lors de garden parties, tout le monde bien habillé et un verre à la main, et d'autres ont été prises sur Eris. On y voit Frances, Mark et plusieurs amis de la sphère artistique. Ou encore Grace dans une pose peu flatteuse, assise toute raide sur le banc qui surplombe les sables. Enfin, une de Douglas et Emmeline Lennox, datée de 1999. Sur ce cliché, les époux Lennox sont appuyés sur le capot de l'Aston Martin de Douglas, comme deux stars de cinéma, bronzées, cigarettes aux lèvres, lunettes de soleil sur les yeux. Entre les deux, un fusil. Grace croit se souvenir qu'ils partaient à la chasse. Emmeline aimait le tir. Un après-midi, elle s'est éloignée seule dans l'île et est revenue avec 2 lapins pour le dîner. Elle les a dépouillés elle-même. Pendant que Vanessa montrait à Douglas ce sur quoi elle travaillait, Grace a aidé Emmeline à préparer le gibier sauce chasseur. Elle a émincé des oignons, du céleri et des carottes en écoutant d'une oreille l'autre femme se plaindre de ses domestiques et des randonneurs qui venaient régulièrement flâner sur leur propriété. Le week-end précédent, a alors raconté Emmeline, elle avait dû abattre un chien qui embêtait les vaches. « Quelle horreur !» s'est exclamée Grace. Mais Emmeline a fait la moue. « Il était avec des promeneurs qui lui avaient enlevé sa laisse », a-t-elle ajouté avec un haussement d'épaules. Et Grace se rappelle qu'elle a soudain trouvé son accent très snob. Ils avaient aussi un enfant avec eux, qui s'est mis à pousser des hurlements épouvantables. Impossible de le faire taire. On aurait dit que j'avais tué sa mère. Grace a éprouvé une intense aversion à l'égard d'Emmeline. À ce moment-là, alors qu'elle grattait les pommes de terre entre ses doigts à la peau rougie, elle a songé que Vanessa et Douglas n'étaient probablement pas en train de parler travail du tout, et elle en a tiré un plaisir sournois. Elle attrape la photo pour la regarder de plus près et examine l'expression d'Emmeline, ses lèvres pincées et son menton relevé. Elle se souvient du désarroi sur le visage de l'épouse de Douglas quand celui-ci et Vanessa sont redescendus de l'atelier en retard pour le dîner, débraillés et puant le sexe. Et la petite satisfaction mesquine qu'elle avait éprouvée s'est dissipée comme de la fumée. À son réveil, juste avant 9h, elle tire le rideau pour laisser entrer la lumière. Quelques gouttes de pluie parsèment la vitre et le ciel est paisible, moucheté de nuages. Grace ouvre la fenêtre, se penche au dehors et sent un goût iodé sur sa langue. Sur la colline, les fougères humides ont pris une teinte cuivrée. Le vert profond de la forêt invite à la promenade. Elle s'habille et s'empresse de sortir avant de changer d'avis. Cette année, elle a pris du poids et n'est plus très en forme. Elle ne doit plus se laisser aller. Vivre seule sur cette île requiert une certaine condition physique. La marée a commencé à descendre, et sous l'effet de la bruine, l'eau de la baie ressemble à du crépi. À l'autre bout de la chaussée submersible, Grace aperçoit une silhouette. À cette distance, elle ne peut pas voir de qui il s'agit. Mais la silhouette transporte quelque chose qui ressemble à un seau, peut-être un pêcheur à pied. Grace tourne le dos à la mer, se met à gravir la colline et rapidement, elle est à bout de souffle. Cela l'inquiète. Si elle n'a jamais été svelte, elle a toujours été robuste. Des mains de boucher, lui a un jour dit un homme, et des cuisses à courir le Kentucky Derby. La côte est raide, mais auparavant, quand elle se promenait avec Vanessa, elle n'avait aucun mal à suivre le rythme de son amie, pourtant plus grande et plus mince, et dotée de jambes interminables. Aujourd'hui, elle doit s'arrêter tous les 20 pas pour reprendre son souffle et endurer la sensation désagréable de la sueur qui coule entre ses seins et dans le bas de son dos. En haut de la colline, on trouve l'atelier, un petit bosquet d'arbres, et juste derrière, une pente plus douce qui mène à la forêt. Celle-ci n'est pas entretenue, et il y règne une obscurité et un froid caverneux, ainsi qu'une forte odeur d'humus. Quand on pénètre dans son enceinte, le bruit du ressac est soudain étouffé. On n'entend plus que les craquements lugubres des vieux pins et les cris des mouettes au loin. Tout en s'efforçant de marcher d'un pas régulier, Grace progresse sur le sentier qui serpente vers le nord à travers la forêt. Après un virage en épingle à cheveux qui marque le début de la partie plus raide de l'ascension, elle aperçoit soudain un éclat rouge vif du coin de l'œil. Sa respiration se coince dans sa gorge. Son cœur s'emballe. Non, il n'y a rien ni personne. Ce n'est qu'une canette de coca. Bon sang. Elle serre les dents et se penche pour la ramasser. En général, les randonneurs prennent soin de repartir avec leurs déchets, mais pas toujours. Parfois, des gosses viennent traîner dans le coin pour sniffer de la colle, du gaz hilarant ou Dieu sait quoi d'autre. L'hiver, c'est moins fréquent. La canette à la main, Grace continue son chemin vers la partie ouest du bois, où deux énormes troncs tombés en travers du sentier obligeaient autrefois à faire un détour. Déracinés par une tempête il y a presque 30 ans de cela, ils ont fini par se décomposer et retourner à la terre. Pourtant, cette partie de la forêt garde quelques stigmates de cet épisode. Le trou dans la canopée laisse entrer le soleil, ce qui a permis à des plantes plus modestes de pousser. Des ormes blancs, du hou, des aubépines peu rassurantes dont les baies luisent comme des grosses gouttes de sang. Sous ses pieds, le sol est ferme, intact. Grace remue des tas de feuilles du bout de sa chaussure, puis s'accroupit pour poser la main sur la terre froide et laisser courir ses doigts autour d'elle. L'odeur humide du sous-bois éveille quelque chose en elle. Des souvenirs de camping, de nuits passées à la Belle Étoile, une autre vie. Non sans difficulté, elle se redresse et fait demi-tour pour redescendre la colline vers la maison. Ce n'est qu'après avoir dépassé l'atelier qu'elle remarque quelqu'un assis sur le banc qui surplombe les sables. le pêcheur à pied de tout à l'heure, un enfant vêtu d'un gilet de sécurité jaune fluo avec un seau bleu posé devant lui. « Bonjour !» lance Grace, méfiante. Elle n'a aucune envie de s'occuper d'un enfant perdu. Mais lorsque l'intrus se retourne, Grace se rend compte qu'il s'agit de Marguerite, dont le visage ridé arbore un grand sourire. Elle se laisse glisser au sol et ramasse son seau. « Bonjour !» dit-elle avec son fort accent français. Sous le gilet jaune beaucoup trop grand pour elle, elle porte une robe tablier et des bottes en caoutchouc. En approchant de Grace, elle brandit son seau pour lui montrer une dizaine de moules au milieu d'un tas d'algues. « Tu en veux ?» demande-t-elle, ses grands yeux pleins d'espoir. « Oh non, merci. Tu n'aimes pas ?» En réalité, elle est friande de moules. Mais elle ne se risquerait pas à manger des coquillages ramassés le long des côtes. Avec toutes ces usines qui se font régulièrement épingler pour avoir déversé leurs eaux usées dans la mer. « Dis-moi, c'est le dernier cri, cette veste ?» commande Grace en désignant le gilet fluo. Et Marguerite pouffe. « Mais ça n'a pas l'air très chaud. » Marguerite la regarde par en dessous, penaude, comme si elle venait d'être prise la main dans le sac. « Et si tu entrais boire un café ?» suggère Grace. La vieille femme retrouve le sourire et acquiesce avant de lui emboîter le pas. Marguerite a plus de 70 ans, mais contrairement à Grace, elle demeure mince et alerte, avec des bras secs et musclés. Elle laisse son seau à la porte, se débarrasse de ses bottes et pénètre dans la maison dans ses chaussettes mouillées. Son visage s'éclaire lorsqu'elle découvre la table recouverte de papier divers. Après avoir essayé plusieurs fois de la dissuader d'attraper les objets un par un pour les reposer n'importe où, Grace capitule et va préparer le café pendant que Marguerite s'extasie devant des croquis et des photos. Elle adresse un sourire ravi à Grace chaque fois qu'elle reconnaît quelque chose ou quelqu'un. Soudain, elle cesse ses mouvements et dévisage Grace, l'air grave. « Il y a un homme sur le port, » annonce-t-elle. « Il te surveille. » Sur le port, Grace se poste à la fenêtre et prend les jumelles posées sur le rebord. « En ce moment ?» s'étonne-t-elle. Elle ne voit personne. Pas même une voiture garée sur le parking derrière le remblai. « Non, non, il y a 2 jours, » répond Marguerite. « En anglais, Marguerite, » soupire Grace en reposant les jumelles. « Tu sais bien que je ne comprends pas le français. »« Pas aujourd'hui, » clarifie l'autre. « Il y a 2 jours, ou 3 jours, ou 4 ou 5, un homme qui regarde et qui surveille. »« Ne t'en fais pas, » la rassure Grace. « C'était juste quelqu'un qui avait besoin de me parler. » Marguerite a probablement aperçu Becker, mais Grace n'en est pas certaine. Cela fait des années que la vieille femme sombre dans la démence. Si le déclin a d'abord été lent, il semble s'accélérer. Les presque 2 ans d'isolation dus au confinement n'ont rien arrangé. Maintenant, Marguerite a peur des inconnus et sa mémoire s'embrouille. Des personnages d'un moment de sa vie surgissent dans d'autres. « Tu n'as pas à t'inquiéter, » ajoute Grace. « Il est venu me voir, mais il est reparti. » « Il va revenir ?»« Oui, peut-être. Hein » Les larmes lui montent aux yeux et elle se met à tripoter ses pointes de cheveux. Grace s'assoit à côté d'elle. « Tout va bien, Marguerite. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de lui. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. » « Oui, » dit Marguerite, mais elle secoue la tête. « Oui, oui. » Il n'est pas comme Stuart. Stuart ne reviendra pas. Non, mais peut-être que oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais, répète-t-elle en anglais. Les larmes roulent sur ses joues. Elle les essuie du bout des doigts et Grace lui attrape la main. Si, si, on sait. Rappelle-toi, je te l'ai déjà dit, il ne reviendra pas. Stuart était le mari de Marguerite. Il n'est plus là depuis 20 ans, mais elle a toujours peur de lui. « Regarde ça, » reprend-elle en poussant une boîte à chaussures pleine de clichés qu'elle n'a pas encore triée vers son invité. « Jette-y un coup d'œil pendant que je finis. » Marguerite s'exécute et se met à se parler à voix basse, sûrement en français, car Grace ne comprend pas un traître mot. Celle-ci a préparé un café très fort. Elle connaît les goûts de Marguerite en la matière. Elle leur sert 2 mugs qu'elle pose sur la table avec le sucrier. Amusée, elle regarde Marguerite mettre dans le sien 1 cuillerée, 2, 3. « Ça suffit !» s'exclame-t-elle en retenant finalement la main de la vieille femme. cette dernière glousse, puis souffle sur sa tasse, prend une gorgée et sourit. C'est bon, très bon. Tout en buvant, elle balance les jambes sous sa chaise et observe la pièce. À un moment, elle incline la tête sur le côté, comme un renard qui guette sa proie. Où est-il passé, ton ami?
Mon ami? Oh, Vanessa?
Oui, où est-il?
Elle, corrige Grace. Elle n'est plus là, Marguerite. Ça fait plusieurs années maintenant, tu te souviens? Tu es venue à son enterrement.
Le sourire de Marguerite disparaît. Elle était très malade. Ça a duré longtemps, et ensuite elle est morte.
Oh non,
souffle Marguerite. Vanessa était toujours très patiente avec Marguerite. Elle se montrait douce et gentille avec elle, sans jamais chercher à s'immiscer dans sa vie privée. Elle avait un don pour ça. Elle savait offrir aux gens ce dont ils avaient besoin. Marguerite est de nouveau en larmes, et cette fois, les tentatives de Grace pour la réconforter sont vaines.
« Mais où est-il passé, ton ami ?»
demande encore Marguerite, les sourcils froncés. C'est toujours pareil. Il y a toujours une autre question. Un autre ami, un autre homme, quelque chose ou quelqu'un d'autre dont elle pourrait avoir peur. Et un instant plus tard, elle l'a oublié. Quand Grace lui propose de la raccompagner en voiture, Marguerite refuse avec un sourire.
« Ça me fait du bien !» explique-t-elle en mimant la marche à pied. « Et ça conserve !»
Il y a des années, elle a perdu une incisive qu'on lui a remplacée par une couronne en porcelaine, mais celle-ci a jauni, la faute au café et à la nicotine. Cela donne à la vieille femme un air négligé.
« Merci, merci !»
chantonne-t-elle avant d'embrasser Grace sur les deux joues.
« Merci, merci, merci !»
Et la voilà partie vers la mer, son seau brinque-ballant au bout du bras. Ses merci joyeux s'envolent dans la brise. Dans la cuisine, Grace remet en ordre ses piles de lettres et de photos. Elle feuillette rapidement les clichés de la boîte à chaussures. Rien de très intéressant. Becker n'aura qu'à les récupérer. Enfin, elle se penche sur les lettres de Carlyle, celles que Vanessa et elle ont échangées pendant les 18 mois que Grace a passé dans cette ville du nord de l'Angleterre. La médecin était partie effectuer un remplacement l'année qui a suivi la disparition de Julian Chapman. Elles sont difficiles à lire. Janvier 2003. Chère Vanessa, je ne prétends pas comprendre ce que tu ressens, bien évidemment. Comment le pourrais-je? Je ne prétends pas comprendre comment tu as pu passer des heures à me décrire tous les travers de cet homme, ses infidélités, ses manipulations, ses duperies, puis l'accueillir comme tu l'as fait chez nous, lui ouvrir ton lit, puis prévoir de partir en voyage avec lui au Maroc, à Venise, ou je ne sais où encore. Mais cela n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Rien de tout cela n'a d'importance désormais. La seule chose qui compte pour moi, c'est toi et ton bonheur. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur, que je ferai tout pour toi, y compris te laisser tranquille si c'est toujours ce que tu désires. Mais je suis terriblement inquiète à l'idée de te savoir seule et effrayée sur cette île. Si tu as besoin de moi, contacte-moi et je n'hésiterai pas à venir te retrouver. Avec tout mon amour, Grace. En lisant cela, Grace n'en revient pas d'avoir réussi à garder un ton aussi rationnel et résigné. Cependant, quand elle lit la réponse de Vanessa, une plaie se rouvre dans sa poitrine, un trou béant dans lequel le vent s'engouffre. Je ne sais pas comment répondre à ta lettre. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne veux pas que tu reviennes sur Eris. Tu sais trop de choses, et ça ne me plaît pas. Je crois que je serai mal à l'aise en ta compagnie. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. La missive continue, mais Grace ne peut supporter d'en lire plus. Elle retourne la page et attrape un autre courrier, qui se limite à deux phrases.
« J'ai besoin de toi. Reviens, s'il te plaît. »
Elle trouve également des mots datant de plus tard, des bribes de listes de courses rédigées par Vanessa pour lui demander de racheter du paracétamol, du whisky, des oranges, des cigarettes, parfois des petits croquis, la vue de la fenêtre de la cuisine, les nuages, une idée pour un vase, des dessins humoristiques de phoques qui bronzent sur la plage, le corps en forme de croissant et la nageoire dressée en un joyeux salut militaire. En passant en revue ses nombreuses reliques, Grace se félicite de n'avoir jamais rien jeté, d'avoir compris des années plus tôt qu'elle devait préserver comme un trésor le moindre écrit de Vanessa. Vers la fin, l'artiste a complètement cessé de dessiner, et ses petits mots se sont faits plus rares et souvent incompréhensibles.
Elle les accrochait sur la porte du frigo ou les jetait par terre, laissant à Grace le soin de les ramasser. Des coins de feuilles déchirées couverts d'une écriture en pattes de mouche à peine lisible. « S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, Grace. À l'aide. » Journal de Vanessa Chapman. J'ai beaucoup réfléchi à ce que m'a écrit Frances il y a des années, quand elle me parlait de faire bouger les lignes entre l'abstraction et la figuration. À l'époque, je trouvais qu'elle enfonçait des portes ouvertes. Mais dans un sens, elle avait raison. C'est ça que je recherche. Me détacher des frontières. Plus que faire bouger les lignes, il me semble qu'il s'agit de les dissoudre. Ces lignes qui séparent l'abstrait du figuratif, l'organique de l'inorganique, l'ordinaire de l'étrange. Je travaille donc à une nouvelle création. Un récipient fabriqué à partir de fragments brisés de céramique. Les morceaux ne parviennent pas tous du même objet. Je veux créer quelque chose de nouveau, de disparate, d'étrange. Un saladier qui n'en soit pas un vase qui n'en soit pas un. Je songe à suspendre au-dessus des objets trouvés qui auraient un lien direct avec le récipient sans être posés à l'intérieur. Je me dirige vers une sorte de sculpture, je suppose. Difficile à expliquer, mais je commence à la voir. Je fais beaucoup de croquis. Les formes suspendues seront statiques. On pourra les voir et les contempler et les interpréter depuis différents côtés pour que la forme de l'ensemble change en fonction de l'angle de vue. L'espace entre les objets est tout aussi important que les objets eux-mêmes, l'ombre aussi importante que la lumière. Idée de tout mettre sous verre. Je suis partagée. J'aime cette façon de créer de la distance, mais l'impact de l'œuvre risque de s'en trouver limité. Difficulté pour le public d'établir un lien avec l'œuvre. Mais quel public, après tout? Je ne compte pas montrer quoi que ce soit. Et qui s'en chargerait pour moi? J'ai coupé tous les ponts, et désormais c'est marée haute. J'ai terminé division. Vendredi, je suis allée chercher le verre chez le vitrier, et hier, j'ai tout assemblé. Il m'a fallu longtemps pour réussir à placer chaque élément correctement. J'étais stressée, et c'était un travail minutieux. Mais cette fois, le processus m'a beaucoup plu. J'avais l'impression de créer, et pas seulement de réparer. J'ai tellement aimé soupeser chaque objet dans ma main, les sentir tirer sur le fil, évaluer la masse de l'un par rapport à l'autre. Le temps que j'installe les nombreuses pièces, il était très tard. À la toute fin, une fois le verre scellé, j'ai reculé et j'ai tourné la tête comme pour dire à quelqu'un « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Et il n'y avait personne avec moi. Ni Julianne, ni Douglas, ni Frances, ni Grace. Pas même la lune. Juste une île entière plongée dans les ténèbres. Je me suis sentie profondément triste. Je suis redescendue à la maison et j'ai vidé une bouteille de vin pour fêter ça, pour me consoler. Au moins, l'œuvre me plaît. Dernièrement, je n'étais satisfaite de rien. Il y a donc du progrès. La prochaine fois, je réessayerai peut-être à plus grande échelle. En plus complexe, à étudier. Une nouvelle voie à explorer. Quel soulagement dans la tempête d'avoir la création pour faire office de ballast. Pour le moment, je dois me contenter de mon seul jugement à l'égard de ces jeunes pousses. Je sais que cela ne durera pas toujours. La marée finit immanquablement par redescendre. Enfin, j'espère. C'est une bonne chose qu'on soit en été, car je pense qu'en ce moment, l'obscurité de l'hiver me tuerait. Je rêve constamment de Julianne, de son beau visage et de sa cruauté. J'ai encore reçu une lettre d'Isobelle. Elle est furieuse contre moi. Je ne sais pas comment réagir à sa colère. Elle ne répond à aucune des questions que je lui ai posées dans mon courrier. Je me demande même si elle l'a lu. Je rêve de Julianne si souvent que je me suis dit que j'allais le peindre, afin de voir si cela pouvait exorciser son fantôme. Hélas, dès que j'essaye, je n'arrive plus à faire apparaître son image dans mon esprit. Peut-être que je ne le mérite pas. Pluie. Durant la nuit, le brouillard écossais s'est invité sur l'île et l'a enveloppé d'un gris si épais que depuis la fenêtre de la chambre, je ne distingue même pas la mer. J'ai attendu qu'il se lève, attendu et attendu, en vain. À bout de nerfs, j'ai fini par aller me promener dans les bois. Il y régnait une atmosphère inquiétante, dérangeante. La brume qui s'accrochait aux branches des arbres ressemblait à des spectres. Je ne pouvais faire plus de quelques pas sans me retourner, tant j'étais convaincue d'être suivie. Parfois, j'imagine des choses épouvantables. J'ai trouvé un squelette d'oiseau en parfait état. Minuscule, peut-être une mésange ou un moineau. J'ai fait l'aller-retour jusqu'à l'atelier pour récupérer une boîte dans laquelle je pourrais le rapporter sans risque. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais en faire, mais je suis très enthousiaste. Ces derniers temps, les idées macabres m'électrisent. J'ignore pourquoi, mais je n'arrête pas de penser à la fois où je me suis cassé le poignet. Le craquement, ce flash blanc, cette impression d'avoir soudain l'esprit totalement clair, la lucidité provoquée par la douleur. La douleur est limpide, le chagrin un brouillard. La solitude aussi est instructive, révélatrice. Tandis que l'amour, semblable au chagrin, pose un voile. Il faut du courage pour créer à partir d'une destruction. C'est un acte volontaire. Il faut choisir de se faire violence, comme pour l'espoir. J'ai une petite boule dure au sein droit. Au toucher, on dirait une bille de cartilage, juste sous la peau. Je devrais aller me faire examiner, mais je n'aime pas le médecin qui remplace Grace. Il est jeune et sournois. Et la dernière fois que je l'ai vu, il a regardé mon corps non comme un professionnel de santé regarde une patiente, mais comme un homme regarde une femme